Le faiseur de monde présente Le nouveau cycle de Yom, troisième livre, Vitiyinkan, épisode 6. Ce matin-là, Alexia n'était pas à la salle de sport. Ça n'alarma pas plus que ça Loun. C'était pourtant la première fois, mais il se dit que cela devait arriver. Il fit ses 20 minutes de sport, puis prit à la cafétéria la deuxième moitié de son petit déjeuner, avant de rejoindre la salle mairesse. L'ambiance tout de suite lui parut différente. Alexia était là, concentrée, avec mairesse, regardant par-dessus son épaule. Ils étaient seuls. Seban n'était pas là. Cela lui arrivait. Par contre, que Carmen ne soit pas déjà enfermée dans son bocal était surprenant. Loun fit alors ce que tous faisaient en entrant dans la salle. Il regarda le tableau de Nathalie, qui généralement arrivait un petit peu plus tard. Il était blanc. Un problème ? Oui, on n'en parlera pas. On sera juste en équipe limitée. Viens, tu vas pouvoir piéger ton premier backlone. El Wessan, c'est une ville que tu ne connais pas, mais d'une certaine manière, ça marche à peu près pareil partout. C'est ta première opération backlone, alors c'est toi qui vas faire le rabatteur. C'est Alexia qui ouvrira la souricière et qui essaiera de le faire rentrer dedans. Alexia avait tendu la souricière. C'est effectivement dans ces moments-là que les intuitions de Nathalie pouvaient les aider, sur le type de boutique que le backlone allait vouloir dévaliser par rapport à ce qu'il avait déjà fait. Enfin, vers 16h, il réussit à pousser le criminel dans la souricière. Hop, un coup de centrifugeuse, on allait pouvoir analyser ses informations pour le neutraliser. Toujours pas de Nathalie, ni de Seban, ni de Carmen. Mairesse, lui, avait régulièrement fait des sauts de puce à l'extérieur, sans trop qu'on sache pourquoi. Il en revenait plus inquiet à chaque fois. Ils avaient presque fini la traque, tout seuls tous les deux avec Alexia, ce qui expliquait aussi que cela ait pris plus longtemps. Évidemment, à 16h, personne à la cafétéria. À la limite, c'était peut-être presque plus pratique pour discuter ouvertement avec Alexia. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a trouvé quelque chose. Je n'en sais pas plus. Ils sont enfermés dans le noyau et à mon avis ne sont pas prêts d'en sortir. Le noyau ? Oui, une salle, très profonde. Aucun réseau, aucune onde, aucun rayonnement, rien. Même ici où tu peux imaginer qu'on est particulièrement protégé, il y a encore mieux protégé, c'est le noyau. Et l'affaire est suffisamment grave pour qu'on ait demandé à Mairesse de laisser Seban et Carmen s'enfermer dans le noyau aussi longtemps qu'il faudrait. Bah c'est pas une bonne nouvelle, hein. Il nous a pratiquement fallu la journée pour un simple backlone. Je sais pas trop ce qu'on va devenir les prochains jours. Toi, de nouveau un stagiaire. Loun avait sursauté, n'ayant pas entendu Mairesse s'approcher. Pardon ? Ton analyse est pertinente. Regardez ce que vous avez fait en une journée. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alexia va prendre 10 jours de vacances. Et toi, tu vas en profiter pour aller faire le tour de quelques autres équipes, histoire d'étoffer un peu tes compétences. On vous rappellera quand les choses se seront un petit peu calmées. Une autre des qualités que Mairesse allait vite apprécier chez Loun. Il ne discutait pas les ordres, il ne cherchait pas forcément à savoir quand il sentait qu'on n'avait pas trop envie qu'il le fasse. Stagiaire donc, de nouveau dans les équipes à côté, pour voir comment on attrapait le menu frottin. Après tout, pour quelqu'un qui comme lui chassait les grands criminels, ça avait toujours un intérêt de voir comment on s'y prenait pour attraper un pickpocket. C'était bien comme ça qu'il l'avait vécu, dans les grandes villes, dans la réalité. Alors après tout, dans les villes virtuelles, les choses devaient se passer de la même manière. Ça ne serait venu à l'idée de personne de lui faire remarquer qu'avant de coffrer le patron de la mafia, on commence par s'attaquer à ses sbires. Ça aurait presque pu ressembler à une remise en cause du choix de Mairesse, et évidemment personne ne s'y risquait. En tout cas, ça allait lui être effectivement très utile pour la prochaine fois qu'il allait essayer de mettre un backlone dans la centrifugeuse. Comme il n'y avait qu'une centrifugeuse, les autres équipes s'occupaient de la traque. On essayait de repérer le backlone, et une fois qu'on l'avait identifié et un peu circonscrit la région où il était dans une ville, hop, ça passait à l'équipe de Mairesse. On lui avait donc expliqué comment attraper un backlone, pas comment le traquer. Ce serait plus facile, en ayant une vision plus globale, de pouvoir l'attraper justement. Et puis, la traque, enfin, il ne le savait pas encore, ça allait être une grosse partie de son boulot des prochains jours. Il fut rappelé au 8e jour. Ce matin-là, il alla directement à la salle. Directement et très tôt. Tout le monde était là, déjà concentré, y compris Nathalie. Petit coup d'œil sur le tableau, CD. Rien d'autre, juste ces deux lettres. Mairesse se tourna vers lui et lui dit « Nathalie va te briefer, et ensuite, tu plonges avec nous. »
« Je plonge où ?»«
Partout. On va passer toutes les villes virtuelles au tamis. »«
On cherche CD ?»«
Exactement. Explique. Quelqu'un nous a envoyé un cadeau. Quelqu'un qui préfère rester anonyme et qui veut nous aider. Difficile de savoir si c'est un vrai cadeau ou un cadeau empoisonné. Un ordinateur que l'on a commencé à démonter un peu pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est ce que l'on a nommé CD. Koldish. C'est Seban qui a trouvé ça. Il a toujours des idées à lui. Enfin, je te raconte donc l'histoire de Koldish. C'est un aveugle qui travaille dans un restaurant. Son job, c'est de mettre des dessous d'assiettes sur une table, des dessous d'assiettes pour des assiettes à soupe. L'objectif, c'est de protéger la table de la chaleur qu'il y a quand tu verses de la soupe très chaude dans l'assiette à soupe. Or, il ne sait pas s'il y a déjà de la soupe ou pas dans l'assiette. Comme il est aveugle, son astuce, pour gagner du temps, il cherche à savoir le plus rapidement possible s'il y a de la soupe dans l'assiette ou pas. S'il n'y en a pas, il peut saisir l'assiette, glisser le dessous rapidement et passer à une autre. S'il y a de la soupe, il faut qu'il fasse attention à ne pas la renverser en glissant le dessous d'assiette entre l'assiette et la table. Comment est-ce qu'il fait pour savoir s'il y a de la soupe ou pas sans avoir à se brûler en mettant le doigt dans la soupe, ce qui en plus n'est pas très hygiénique? Eh bien simplement, il glisse la main sous le bord de l'assiette pour savoir si elle est chaude. Si elle est chaude, il y a de la soupe, il fait attention. Si jamais elle est froide, il peut y aller directement sans prendre de précautions. C'est bien une histoire assez bonne, ça. Bon, et alors, Koldish? Eh bien, le nom devrait te l'expliquer. À un moment, il touche une assiette, elle est froide, alors il la prend un peu brutalement pour mettre le dessous d'assiette, et il s'ébouillante, parce que dedans, il y avait de la soupe. Bah comment il peut s'ébouillanter avec de la soupe froide? C'est ça l'astuce. À l'intérieur de l'assiette, il y avait de la soupe chaude. Sauf que l'assiette est restée froide. Koldish. Bah alors pas besoin de mettre un dessous d'assiette pour protéger la table. On est vraiment bizarre dans l'équipe, hein. On est tellement habitué à la tournure d'esprit de Seban qu'on a tous compris où était le problème. Si la table est chaude, tu mets de la soupe bouillante dans une assiette qui reste froide, mais la table chauffe quand même. Ok, va pour l'histoire et son explication, et alors? Ah, là évidemment, tu débutes. Donc t'as bien compris l'histoire de Seban, t'as pas tout de suite traduit ce que ça voulait dire pour nous. Je te fais un dessin. Aidon, Afton, Actul, Acton.
Tu plaisantes?
Non, et on a tout le processus. Sur l'ordi qu'on nous a envoyé, il y a tous les tests, toutes les tentatives, jusqu'à ce qui ressemble à une réussite. Ou en tout cas une étape qui peut nous laisser croire que le coup d'après, ça a été réussi. Ça, on ne l'a pas, mais on a intérêt à chercher pour savoir si ça a été fait. Parce qu'alors, c'est la révolution. Tu te souviens ce qu'on t'a expliqué quand tu passes de Actul à Acton? C'est un petit peu comme si le pacte de droits lié à une boutique est en partie délégué à la ville, mais les droits eux-mêmes sont toujours gérés par la boutique. Seulement, en termes de sécurité, globalement, la boutique délègue une partie à la ville, et la ville, elle, considère que c'est la boutique qui décide ce que le visiteur a le droit de faire. En gros, si on reprend l'image de la carte à puce, celui qui te file la carte à puce est responsable de la carte à puce, mais pas de ce qu'il y a écrit dessus. Ce qu'il y a écrit dessus, c'est la boutique qui s'en occupe. Mais la boutique, elle, se repose sur la sécurité de la carte à puce, qui n'est pas fournie par elle-même. Oui, là, on va dire que ça me parle peut-être un petit peu plus que les histoires d'assiettes et de soupe. Et alors? Eh bien alors, pour modifier les droits de ce qu'il y a inscrit sur la carte à puce, tu dois d'abord pirater la carte à puce pour pouvoir avoir accès à l'endroit où sont stockés ces droits. Oui. Eh bien là, non. Tu mets de la soupe bouillante dans l'assiette pour chauffer la table sans chauffer l'assiette. Tu veux dire sur l'histoire de la carte à puce que tu vas pirater ce qu'il y a écrit à l'intérieur de la carte à puce sans toucher la carte à puce? C'est ça. Ce que nous avons trouvé dans l'ordinateur, c'est un test sur un cas un petit peu simplifié, mais qui peut très bien être dupliqué sur tout le reste. L'Aidon et l'Afton ne sont jamais touchés. Ce sont les mêmes. Le niveau droit de la couche Actul, en fait, c'est l'entrée dans une salle de jeu. Et au-dessus, tu as l'Acton, qui est un simple visiteur d'une ville virtuelle. Ce que l'on a dans l'ordi, ce sont 700 tentatives de modifier la couche Actul sans toucher à la couche Acton. Ce qui normalement est impossible. Eh bien, la dernière branche de test se termine par un Acton qui a le droit de jouer à deux jeux dans la salle, alors que l'original n'avait droit à jouer qu'à un seul. Soit c'est une mystification et il a simplement suffi d'acheter les droits qui va bien pour obtenir ce nouveau profil de visiteur. Soit la personne qui a fait ça n'a réellement pas acheté les droits pour le deuxième jeu et a réussi à pirater la partie Actul pour rajouter les droits sur ce deuxième jeu sans toucher à la partie Acton. On a pu vérifier, la partie Acton est exactement la même.
Waouh.
Comme tu dis, visiblement, en secouant un peu l'historique de l'ordinateur, si c'est vrai, ça a pris 2 ans, et le résultat date d'il y a quelques semaines. On est donc en train de passer toutes les villes virtuelles au peigne fin pour essayer de lui mettre la main dessus. Si jamais on y arrive, on le repère, on l'envoie dans la centrifugeuse, et on comprendra comment ils ont fait. Et on pourra alors pas corriger une faille, puisque visiblement il n'y a pas de faille, mais au moins augmenter la sécurité pour que ça n'arrive plus. Si on n'y arrive pas, ça veut dire que la personne qui a fait ça continue ses recherches, et qu'à un moment, elle va pouvoir s'attaquer à un profil un petit peu plus compliqué que celui sur lequel elle a fait ses tests. Et là, c'est une grande partie du modèle de gestion des droits des visiteurs qui s'effondre. S'il suffit d'utiliser cette technique pour pouvoir donner tous les droits à quelqu'un sans que la ville ne puisse le repérer, alors là, c'est la porte ouverte à tous les cambriolages, tous les vols, tout ce que tu veux. Le multipass de la ville. À partir du moment où tu as le droit de rentrer dans une ville, tu peux faire tout ce que tu veux. La seule limite, ça sera la liaison avec les systèmes bancaires. Mais, évidemment, d'autres pirates pourront s'associer pour fournir des codes, et donc soit créer des faux comptes bancaires et voler les banques, soit dupliquer les comptes de certains visiteurs. En attendant, tout ce qui ne se paye pas avec une carte bancaire, tous les niveaux d'accès, les échanges, les interactions, l'accès aux informations, tout ça, plus aucune limite, plus de gestion de droits, plus de différenciation des visiteurs. En un mot, tous les modèles non marchands qui s'effondrent. Et sur le modèle marchand, je pense qu'on peut faire confiance aux pirates pour s'associer avec les bonnes personnes qui connaissent bien les systèmes de paiement pour faire aussi tomber les systèmes marchands. Tout s'effondre alors ? Non. Ce qui s'effondre, c'est l'Acton, la couche qui est censée amener la sécurité. La partie Actul, elle, certes elle aura été piratée, mais du temps où il n'y avait pas les villes virtuelles, les habitants avaient l'habitude de gérer ce genre de problématique. Ah, du coup, c'est pas aussi grave que ça. Il suffit à chaque habitant de reprendre la sécurité de ses clés pour corriger le problème. C'est ça. Et à ton avis, ça va avoir quelle influence sur l'équilibre entre Acton et Actul? Eh bien, on en revient à la couche Actul. Exactement. C'est la fin des Actons. C'est la fin des villes virtuelles. Ce sont elles qui nous payent. Ce sont elles que l'on doit défendre. Quand tu es rentré ici, on t'a bien expliqué qu'on n'était pas là pour assurer la sécurité des visiteurs, mais pour assurer la sécurité des habitants, pour le bienfait de la ville. On travaille pour la ville. Si on doit choisir entre visiteurs et habitants, on choisit les habitants, parce que la ville nous demande de protéger ce qui la fait vivre. Si jamais on doit choisir entre la ville et les habitants, c'est ennuyeux. Mais nous allons être obligés de choisir la ville. Si Koldish se répand, certes, les habitants, en reprenant eux-mêmes la notion de sécurité de leurs propres droits, pourront s'en sortir. Par contre, il n'y aura plus de ville. Ça finira par les impacter aussi. Ils vont de nouveau se retrouver comme une multitude d'immeubles balancés comme ça à travers l'espace, sans rien pour les relier les uns aux autres. À part le NetPuge, tout notre monde numérique, aujourd'hui, repose sur les villes virtuelles. Qu'est-ce qui se passe si jamais tu en sapes les fondements? J'ose même pas l'imaginer. Eh bien, on régresse. On régresse à avant la ville virtuelle. C'est pas l'effondrement total, mais on va quand même tout faire pour l'éviter. Alors, ce fut la traque. La recherche de toutes les anomalies. La recherche de tous les incidents qui pouvaient être déclarés, les vols, les détournements, qui pouvaient laisser entendre que la ville avait agi comme elle avait dû, mais s'était fait dépasser sans pouvoir l'expliquer. Contrairement à d'habitude, on ne savait pas ce que l'on cherchait. Et la ville ne pouvait pas nous aider à pointer du doigt l'endroit où il s'était passé quelque chose. Loon découvrit à cette occasion pourquoi même Mérès ne pouvait pas vivre à Dialdon. Le dôme, évidemment, n'était pas extensible. Et pour des raisons de praticité, on avait fait venir tellement de monde sur Pangetto que toutes les pièces qui auraient pu servir comme salle de repos avaient été transformées en salle d'opération. Pourtant, là, ils avaient vécu sur place, dormant parfois dans les couloirs, encombrant la cafétéria, prenant leur douche sur des créneaux horaires bien précis derrière la salle de sport. Mais il fallait bien se reposer. Aussi, après quelques jours, Loon rentra chez lui en milieu d'après-midi. À cette heure-là, les transports en commun sont à moitié déserts. Il était seul, sur le quai, et quand la rame s'arrêta en face, l'homme, qui le regardait aussi intensément, ne pouvait forcément que vouloir le fixer lui. Il n'y avait personne d'autre autour de Loon. Puis, juste avant le départ de la rame, après s'être rassuré de l'attention de son interlocuteur, derrière la vitre, presque de manière muette, il prononça une simple syllabe. Et Loon, épuisé par 5 jours de trac, sentit presque ses jambes se dérober sous lui. Gus.